BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, avec le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, nous recevons le nouveau patron de l'UDA, Franck Gervais. On parlera avec lui des engagements de l'Union des annonceurs en matière de lutte contre les stéréotypes et pour une communication digitale responsable. Valérie Potin, qui signe l'édito de la semaine, décryptera une étude Harris Interactive sur les entreprises les plus crédibles en matière de communication. Et puis, on s'intéressera aux seniors dans la pub en compagnie de Stéphane Santana, co-directeur de la création de CLM BBDO, qui signe la dernière campagne des Cafés Grand-Mère, et Serge Guérin, sociologue spécialisé dans la séniorisation de la société. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, pour les news cette semaine, vous avez retenu Nike qui a dévoilé une publicité émouvante. C'était lors de la cérémonie des Oscars.
Après avoir choisi Colin Kaepernick comme égérie, Nike a de nouveau fait un choix très engagé. La marque met cette fois-ci à l'honneur les femmes sportives et leur combat à travers la campagne Dream Crazier. Un spot avec des images d'archives où apparaissent une paratriathlète, une entraîneuse de NBA ou encore une championne olympique de snowboard, des athlètes qui passent des larmes à la rage, autant d'émotions souvent qualifiées d'hystérie, de folie ou d'inconscience par les observateurs. Et derrière ces images, la voix de Serena Williams qui nous dit « Si nous montrons de l'émotion, nous serons qualifiés de dramatiques. Si nous rêvons de nous mesurer aux hommes, nous délirons. Alors, s'ils veulent vous traiter de folle, ok, montrez-leur ce que les folles peuvent faire. » Une ode aux femmes signé Vidan & Kennedy, Portland.
Publicis Conseil, de son côté, revisite Jacques Dutronc pour Renault et le PSG et la Mégane.
Et vous connaissez tous la chanson « Il est 5h, Paris s'éveille ». Eh bien, cette chanson porte la nouvelle campagne de Renault pour la Mégane, une campagne réalisée dans le cadre du partenariat entre le constructeur et le Paris Saint-Germain. On y voit l'ancien footballeur rail au volant d'une Mégane circulant dans Paris un jour de match, et au fur et à mesure que la journée avance, eh bien, la voix de Jacques Dutronc s'efface pour laisser place à celle des supporters. Et puisqu'on parle de foot et de marque, Altice s'offre Neymar pour égérie. Il va incarner toutes les marques de l'opérateur sur tous les territoires. Altice renouvelle en parallèle son partenariat avec Cristiano Ronaldo.
Une nouvelle action de YouTube en faveur de la brand safety.
La filiale de Google a été accusée de faciliter les échanges de vidéos d'enfants entre les pédophiles. Du coup, plusieurs marques comme Disney, Epic Games, AT&T ou encore Nestlé ont décidé de retirer leur pub de la plateforme. À l'origine de cette affaire, l'alerte donnée par un blogueur, des pédophiles utilisaient les commentaires sous des vidéos de mineurs pour se transmettre discrètement des vidéos à caractère pédopornographique. YouTube a corrigé le tir en supprimant des millions de commentaires suspects la semaine dernière. Et cette semaine, il a même décidé d'aller encore plus loin en supprimant la possibilité de commenter la plupart des vidéos montrant des mineurs.
Et puis on termine avec les résultats de WPP et cette grosse chute de son bénéfice net.
Une chute de 41% en 2018, en conséquence notamment du renforcement de la livre et des frais de restructuration engagés par le groupe. Le géant britannique de la publicité déplore un marché publicitaire difficile et des pertes de clients l'année dernière. Côté perspective, ça n'est pas mieux. WPP estime que son chiffre d'affaires va reculer de 1,5 à 2% cette année.
Frédéric, on a du mal à voir où va WPP. Ou WPP, comme dit Marie.
Ou WPP, il cherche en effet un petit peu sa voix. C'est un groupe qui a grossi de manière absolument considérable sous l'autorité de Martine Sorrel. Aujourd'hui, son et ses successeurs sont un petit peu plus perdus. Ils essayent de faire le ménage. Et puis, dans un contexte de Brexit, forcément, ça n'aide pas.
Merci Marie Valogne. À la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom. L'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Franck Gervais. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général Europe d'Accor et vous venez d'être élu à la présidence de l'UDA, l'Union des annonceurs, pour une durée de 2 ans. D'abord, j'ai envie de vous demander quelle est vous votre vision de l'UDA. Comment est-ce que vous définiriez cette organisation? Quelles doivent être, selon vous, ses missions?
Alors, l'UDA, pour tout le monde, parce que tout le monde ne la connaît pas forcément, l'Union des annonceurs, ça veut dire que ça regroupe tout un ensemble d'entreprises, plus de 200 aujourd'hui. Donc, il y a 6000 personnes qui sont impliquées derrière ces entreprises dans leur rôle d'annonceur. Annonceur, c'est pour faire valoir les marques de ces entreprises et les investissements en publicité et communication. Et donc, sur ce sujet qui est un sujet clé, qu'on voit tous les jours, qu'on aime tous les jours, et le rôle de l'UDA, c'est une organisation qui vise à vraiment pousser la liberté de communiquer, mais la liberté de communiquer avec la responsabilité de la communication et l'efficacité aussi de la communication. Donc, l'UDA devient de plus en plus un vrai hub, un endroit où on construit toutes les marques réunies sur ces trois sujets-là, liberté, responsabilité, efficacité, dans un monde qui se digitalise de plus en plus, dans un monde où les marques ont de plus en plus d'importance, mais aussi de réticence de la part de beaucoup de consommateurs. Et on parle de marques consommateurs, on parle de marques employeurs, on parle de marques corporate. Ouais. Donc l'environnement, il est complètement nouveau. Et le but de l'UDA, c'est d'éclairer tous ses membres pour les orienter de la plus belle des façons dans leurs investissements et pour défendre leurs marques.
Alors vous êtes, c'est vous qui avez au fond, vous les annonceurs, les clés de beaucoup de choses hein, dans le domaine de la publicité et par conséquent sur les médias. Et il y a quand même, vous le disiez à l'instant, un peu d'inquiétude des annonceurs vis-à-vis de la manière dont la publicité est diffusée, dont la publicité est comprise ou reçue par les consommateurs. Il y a donc des programmes qui sont lancés, le programme Faire. Est-ce que et Digital Ad Trust, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, alors ce sont des sujets clés qui sont dans ce monde nouveau, digitalisé, mais aussi plus complexe, plus efficace, plus rapide, mais aussi plus complexe à comprendre. Comment est-ce que nous, on donne un peu des clés de compréhension? Donc sur le sujet de responsabilité des marques, tout d'abord, c'est un programme FAIRE, c'est F-A-I-R-E, donc jeu de mots sur l'équité, FAIRE en anglais sans le E, mais en rajoutant le E en français, on est dans ce rôle de l'action. On n'est pas des gens côté UDA qui écrivons des papiers et qui se contentons d'un lobbying, on oriente vers l'action nos membres. Et donc, premier sujet depuis un an, une trentaine de marques qui se sont réunies pour dire on va tout faire pour stopper les stéréotypes dans la publicité. Mmh. On en a tous les jours des stéréotypes dans la publicité. Vous voyez, il y a un challenge qui a été lancé où Ariel a gagné. Vous voyez l'image, et c'est dénoncé par Ariel, l'image de cette petite fille qui imite sa maman et qui met la lessive le matin. Mmh. Et en fait, si on montre ça dans la publicité et Ariel le dénonce, eh bien, on fait notre travail éducatif pour lutter contre les stéréotypes. Et l'autre gros sujet qui a été annoncé il y a 15 jours maintenant et qui regroupe plus d'une quinzaine de marques, c'est que ces marques-là disent, dans ce nouvel environnement digital, nous engageons avec nos agences médias à pousser nos investissements médias dans des environnements selon des formats, dans des volumes aussi et avec une qualité de ces publicités qui sont respectueux donc de ces critères-là, parce que ces critères-là sont ceux qui sont demandés par le consommateur, le lecteur, le vidéaste qui est derrière son écran. Donc c'est des sujets qui sont compliqués parce que comment est-ce que vous mesurez, où est-ce que vous mettez le curseur, tout ça, cette démarche vise à le travailler avec les marques qui sont membres de ce programme. En tout cas, il y a 15 marques qui se sont engagées avec leurs agences médias en disant oui, nous souhaitons vraiment donner de la clarté, de la lisibilité et nous engager, nous, en termes de responsabilité sur ce Digital Ad Trust qui est au final un label qui reconnaît les sites respectueux de tous ces critères-là.
Mais c'est pas beaucoup, 15 marques quand même.
Ouais. Alors, parce que l'UDA, c'est quoi? C'est 230 marques? Alors, 230 entreprises et 1500 marques?
Absolument. Et donc, pourquoi c'est pas beaucoup? Et en fait, là-dessus, je préfère qui est peu de marques au départ, et vous verrez que dans un an, ce chiffre va augmenter, parce qu'il faut bien comprendre que vous n'êtes pas en train de signer un engagement sur un bout de papier, c'est que ça remonte dans toute une chaîne d'investissement média, donc ça implique toutes vos équipes marketing, communication, digital, pour pouvoir tracer la qualité de vos investissements médias et sécuriser le fait que sur les 5 grands critères qui sont le Digital Ad Trust, eh bien vous serez au rendez-vous. Donc c'est pas un engagement qui est un engagement fin, distant, c'est un véritable engagement très très fort. Je peux parler pour mon groupe, qui est le groupe Accor.
Accor est signataire de Digital Ad Trust.
Accor est signataire de Digital Atlas, mais c'est quelque chose qui a nécessité beaucoup de réflexion, beaucoup de travail, parce que c'est un fort engagement. Et donc, il y a beaucoup de marques qui sont depuis venues nous voir en disant on voudrait bien signer, mais on a vu combien c'était important. Ça montre aussi que ce sujet, il est clé. Et donc, aidez-nous finalement à mieux tracer nos investissements dans la méthode. Et c'est là le rôle de l'UDA.
Et sur le programme FAIR, Accor a attendu un an avant de le signer. Pourquoi ? Là aussi, c'était compliqué ?
Alors, c'est pas que c'était compliqué, c'est que, comme je vous disais, il faut vraiment remonter dans toute la chaîne, être en liaison avec votre agence, vos agences médias, vos agences de création.
Et y compris sur des questions de stéréotypes, parce qu'ok, sur Digital Atlas, je veux bien croire, il y a des implications technologiques, il y a toute une chaîne à remonter, mais sur les stéréotypes dans la pub, ça me paraît, moi, de prime abord, beaucoup plus simple.
Alors complètement. Après, nous, on pousse à fond sur ce sujet-là, dans les stéréotypes dans la pub. On peut pas tout faire en même temps. L'essentiel, c'est d'y être aujourd'hui. Et je peux vous dire que l'engagement là-dedans, il est total. On est aussi sur des métiers ou des clients. Hein. On a tous en tête des situations d'accueil dans les hôtels, des situations d'employés où vraiment on promeut la diversité, la lutte contre les stéréotypes. On a 40% de nos directeurs d'hôtels qui sont des directrices d'hôtels. Et ça augmente chaque année d'un à deux points. Et donc, on est vraiment dans cette démarche-là. Et on s'est dit, finalement, on a fait tellement de choses que c'est le bon moment de signer cet engagement-là. On a préféré le faire dans ce sens-là.
On parlait à l'instant, pendant les actus de YouTube et de problèmes de brand safety, autrement dit de sécurité des marques dans l'environnement digital. Est-ce que pour le coup, les annonceurs sont aussi inquiets que le peuvent l'être notamment leurs homologues américains et anglais sur ce sujet en France?
Ils sont inquiets, en tout cas ils sont très soucieux. On a vu, hein, c'est aux US que la barre des 50% a été dépassée sur tous les investissements en communication, en médias, ouais. Plus de 50% sur le digital. En France, on est, je crois qu'on est à 45% aujourd'hui.
Donc on y va tout droit.
Donc on va passer vers les 50%, c'est une évidence. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a tous nos critères connus historiquement de GRP dans des investissements offline, médias classiques. Et là-dessus, on a besoin de beaucoup plus de transparence, de traçabilité sur quelque chose qui est clé, qui est l'efficacité de votre investissement. Et donc, oui, c'est un des, allez, deux, trois gros sujets clés pour les annonceurs et donc dont ils demandent à l'UDA de se saisir pour apporter du benchmark, des best practices, un peu de méthodologie. Et donc c'est ça qu'on va faire très très fort cette année. On va beaucoup communiquer, vous verrez dans les 6 semaines qui vont venir, sur l'efficacité de la publicité, notamment dans des environnements digitaux avec des guides en la matière pour vraiment aider et accompagner.
Vous avez aussi annoncé le lancement de la Brand Academy pour faciliter le partage de connaissances entre les marques. Ça veut dire quoi concrètement ?
Donc Brand Academy, donc c'est l'université des marques si on veut donner, ouais. Ou l'académie des marques. Donc ça donne à l'UDA ce rôle vraiment d'entité qui réunit tous ses partenaires, qui réunit aussi les parties prenantes, donc les médias, les agences, et qui finalement forme aussi ses adhérents. On n'est pas là simplement pour avoir, nous, une posture où on va voir des ministères, faire du lobby, c'est des choses qui sont nécessaires. Il y a beaucoup de choses en la matière, dans le domaine vraiment régalien, juridique. Mais on veut, en fait, montrer l'exemple par la formation, par l'action. Et donc, sur tous ces sujets que sont l'efficacité des investissements, le respect de la sécurité, de la liberté individuelle des individus, des internautes, des sujets environnementaux aussi, le sujet de l'importance des marques. Je disais encore ce matin que vous avez 77% des consommateurs, des acheteurs, qu'ils ne veulent plus acheter que des marques qui ont un sens pour eux, mais qui l'incarnent vraiment. C'est-à-dire dont ils voient que la politique d'emploi, la politique d'achat, la politique de vente représentent le sens, ouais. Ces valeurs-là. Eh bien, l'UDA est ce creuset où on forme vraiment nos membres, les entreprises, les membres des entreprises adhérentes de l'UDA. Et ce ne sont pas que des gens qui sont dans des entités marketing et communication, mais c'est marketing, communication, RH, juridique, tous ces domaines-là, vraiment sur les meilleures pratiques, les enjeux pour leur donner la vision large. Et ensuite, les meilleurs outils pour que eux, repartant après une journée de formation en direct ou bien même online, on le fait aussi online, eh bien ils soient dotés des meilleurs outils et qu'ils aient les meilleurs exemples en tête en disant tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça chez moi.
Merci beaucoup Franck Gervais, je rappelle que vous êtes le nouveau patron de l'UDA.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec cette semaine, Valérie Potin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors on parle aujourd'hui de la crédibilité des marques et de la confiance que les Français leur accordent avec cette étude que vous nous avez dénichée, réalisée par Harris Interactive et l'agence Epoca.
Absolument, c'est un palmarès en fait, le palmarès des entreprises les plus crédibles en communication. C'est une étude qui est assez intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle a été réalisée en février 2019, donc on est après le pic de la crise des Gilets jaunes. Et l'autre raison, c'est parce qu'elle a été faite sur un échantillon de 5000 Français de 18 ans et plus, ce qui est un échantillon vraiment représentatif, puisque pour info, c'est à partir de 1500 personnes, on est déjà sur un échantillon représentatif. Donc là, vraiment, on est sur du très représentatif. Et donc ce palmarès, alors il nous apprend plein de choses. Il nous apprend notamment que 54% des Français se disent, disent avoir confiance dans les entreprises lorsqu'elles prennent publiquement la parole, que ce soit dans les médias ou d'une autre manière. Ça c'est plutôt c'est un score qui peut paraître, alors qui dans le cadre d'une présidentielle serait un vrai plébiscite, ouais. Mais là pour le coup c'est pas dingue comme résultat, mais c'est quand même mieux que ce que font les médias ou que ce que font les gouvernements qui sont très nettement en dessous. Un des autres enseignements c'est que plus les entreprises ont une forte implantation territoriale ou locale, on va dire, ou plus elles ont une dimension coopérative ou mutualiste, plus elles sont crédibles. Et à l'inverse, plus elles sont internationales, plus elles sont cotées, et moins elles sont crédibles, à l'exception quand même de ces grandes entreprises françaises qui sont devenues des marques un peu patrimoniales, comme le sont Chanel ou Michelin, par exemple.
Et alors, quels sont justement les champions de ce palmarès, Valérie ?
Alors, les trois premières entreprises, sont Decathlon, Leroy Merlin et justement Michelin, qui sont trois marques qui font vraiment partie du quotidien des Français. Ça, c'est une caractéristique aussi des marques qui sont plébiscitées et qui sont considérées comme crédibles. Elles sont ancrées dans le quotidien. C'est un podium qui est assez inédit. Et ce qui est assez drôle, c'est que le top 10 et même le top 20 de cette étude est assez inédit parce qu'on n'y retrouve absolument aucun GAFA et aucune marque technologique du type Samsung. Ce sont des marques qui sont pourtant, qui trustent, généralement tous les classements qu'on propose ces dernières années, donc c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant, d'autant plus que ces marques, ces GAFA et ces marques technologiques, ce sont des marques qui sont plutôt des acteurs qui sont au centre un peu de la relation entre les personnes, qui sont au centre du partage de l'information et donc quelque part de la construction de cette confiance. Donc leur absence du classement, elle pose question pour le coup.
Alors justement, comment est-ce qu'on peut interpréter leur absence à ce niveau-là ?
Au-delà de la dimension internationale dont j'ai parlé, ou du fait qu'elle soit patrimoniale ou pas patrimoniale, c'est en fait en regardant les éléments constitutifs de la crédibilité aux yeux des Français qu'on comprend un petit peu ce qui se passe. Ces éléments de crédibilité, il y en a cinq principaux. Ce sont des critères qui peuvent évoluer en fonction des tranches d'âge et des catégories socio-professionnelles. Mais bon, au global, on va parler, un, de la qualité du produit. Ça, c'est le premier élément. Ça paraît normal. Le deuxième, c'est l'image de marque employeur. Ça, c'est, alors, on le connaît, mais à l'échelle du grand public, c'est quand même assez surprenant que ce soit déjà en deux. Le respect des obligations fiscales, on en parle tellement, c'était normal que ça tombe. La transparence en matière de résultats, ce qui est un peu lié. Et l'écoute de ses clients. Et faut reconnaître que sur tous ces critères-là, les GAFA sont pas les entreprises les plus exemplaires. Donc, la morale, finalement, de cette étude et de cette histoire, c'est que la crédibilité, on le voit bien, elle ne se décrète pas. Elle se construit, elle se gagne. Elle se construit sur des bases, évidemment, solides, et sur une histoire aussi. Les entreprises qui ont une histoire sont plus crédibles. Et ça commence, tout ça, par le respect d'un certain nombre de règles de base que sont, on l'a vu, avoir un produit tout simplement fiable, avoir une entreprise qui crée de l'emploi, mais qui traite aussi bien ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients, et puis une entreprise qui paye ses impôts. Voilà, ça paraît évident, et pourtant.
Merci Valérie Potin.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et aujourd'hui, avec Frédéric Roy, on s'est dit qu'on n'allait pas parler des millennials.
Non.
On s'est dit qu'on allait parler des seniors dans la pub. Ça nous changerait un petit peu. On en parle avec Stéphane Santana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur de la création chez CLM BBVO et Serge Guérin. Bonjour.
Mes hommages du jour.
Vous êtes sociologue spécialisé dans la séniorisation de la société et vous publiez les quinquados. C'est aux éditions Kalman-Lévy. C'est quoi les quinquados ?
Les quinquados, c'est des gens qui ont autour de la cinquantaine, parfois un peu plus, parfois un peu moins, et qui n'ont pas du tout envie de ressembler à l'image qu'on donne d'eux, ou à l'image que parfois la pub donne d'eux, ou l'image que la société veut donner d'eux, ou l'image que les entreprises veulent donner d'eux. Ils ont envie de, parfois, de revivre une seconde jeunesse, une seconde adolescence. Ils ont envie de profiter de la vie. Finalement, c'est rester être jeune, même si officiellement sur l'état civil, c'est pas tout à fait ça.
Alors Stéphane, vous signez un film pour les cafés grand-mères qui est assez déroutant parce qu'en fait on y découvre que les grand-mères d'aujourd'hui, c'est les femmes qui ont fait la révolution en quelque sorte il y a à la fin des années 60, et donc c'est un hommage à la libération de la femme menée par des gens qui sont aujourd'hui les grand-mères. Qu'est-ce qui vous a amené là à faire cette ce grand saut là?
C'est un constat. Je pense que quand les créatifs sont venus avec cette idée là ils sont surtout inspirés de leur grand-mère qui ont évidemment pas l'âge de ma grand-mère, et ils se sont rendus compte que voilà, c'était une nouvelle manière de pouvoir fêter la fête des grand-mères qui avait été installée par Café Grand-mère en 87. Avoir remercié sa grand-mère, en fait, entre guillemets, pour la fête des grand-mères, c'était aussi la remercier pour tout ce qu'elle avait contribué à faire et tous ces changements de société qu'elle avait pu contribuer à amener. C'était une nouvelle manière, une nouvelle approche de pouvoir fêter la fête des grand-mères, et c'était aussi parler de transmission, en fait, entre les générations. Donc voilà, je pense qu'ils sont tout simplement inspirés de leur grand-mère. Ça c'est parti de là, en tout cas.
Mais justement, on voit finalement des femmes qui sont dans leur époque mais qui sont jeunes à cette époque.
Bien sûr.
Donc c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que dans les pubs jusque-là de Café Grand-mère, elles sont des grand-mères forcément parce que le nom l'implique, mais c'est une autre façon aussi de parler de cette génération-là.
Les grand-mères de maintenant sont plus jeunes que les grand-mères d'hier, et les grand-mères de demain, c'est pas la même chose en fait. Donc on le voit, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, quand on se disait qu'il y avait aussi d'autres applications, notamment les applications de rencontres, etc., qui ciblent maintenant les personnes âgées. C'est vraiment, on n'a pas la même manière on n'est plus grand-mère de la même manière. Et du coup, c'était logique pour nous de s'adresser à des grand-mères qui sont les grand-mères de maintenant.
Mais c'est vrai, Serge, que les grand-mères d'aujourd'hui, ou les seniors d'aujourd'hui sont plus jeunes que les générations précédentes. Comment est-ce qu'on explique ça?
C'est très bien vu. C'est-à-dire que d'abord, les gens, quand ils voient quelqu'un de 70 ans, 75 ans, de 80 ans, ils la voient là, à ce moment-là, sans penser qu'il y a eu 80 ans d'histoire. Et que, une femme de 80 ans, elle a eu 80 ans d'histoire. Et cette génération-là a vécu des choses que aucune autre génération n'a vécu dans toute sa vie. Elles sont nées parfois dans un village où il y avait même pas un téléphone fixe. Donc quand on explique les millennials, s'ils passent de la version 7 à la version 8 sur leur iPhone, oui, ça va être exceptionnel comme transgression, mais par rapport à ce qu'ont vécu ces personnes, et entre autres d'avoir conduit une grande partie de la libération des femmes. D'ailleurs, parfois elles regardent ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup d'inquiétude, parce qu'il y a aussi des régressions très fortes. Et en effet, je trouve ça très fort de ce point de vue-là. Et le deuxième élément, en effet, c'est que souvent les gens ils regardent comme des photos. En fait, faut regarder comme des films. Les générations, ça bouge, ça évolue. Quelqu'un qui a 80 ans aujourd'hui, même physiquement, d'abord, il peut même pas ressembler à je sais pas qui, parce qu'il y a une ou deux générations, il y avait finalement pratiquement personne de 80 ans. Ouais. Les gens de 80 ans, ils inventent un truc. Les gens de 60 ans, ils ont compris. Ils voient leurs parents. Ils disent, ah, zut, ou merde. Ils disent, demain, je serai comme ça. Donc, faut peut-être que je m'y prépare. Mais les gens de 85 ans, personne leur a dit qu'ils auraient 85 ans. Donc, ils sont aussi des pionnières. Je dis des pionnières parce que c'est quand même majoritairement des femmes, parce que pour l'instant, il y a encore un écart d'espérance de vie assez fort, donc c'est principalement des femmes. Mais oui, et elles inventent tous, ils inventent ce que j'appelle la séniorisation, ce qu'on peut appeler par plein de mots comme ça, ils inventent quelque chose d'autre. Et ils poussent d'ailleurs parfois les plus jeunes à changer de regard. Parce que souvent, ce sont les plus jeunes qui sont les plus ringards.
Oui.
Et justement, comment est-ce qu'on s'adresse à cette cible-là en termes publicitaires? Parce que aujourd'hui, là, vous parlez de gens qui sont des quinquados, qui ont au-dessus de 50, mais il y a aussi la frange au-dessus de 70, 80. Comment est-ce qu'on leur parle? Comment on les fait pas passer pour des vieux, quelque part?
Je pense qu'en fait, on n'est pas là nécessairement publicitairement pour changer. On est plutôt là pour accompagner une tendance culturelle, c'est-à-dire que on voit la manière dont les choses évoluent, on essaie de se greffer à cette image et cette perception en fait qui est en train de changer, et on s'engouffre là-dedans et on essaie de décrire au mieux ce qu'on peut percevoir en fait de qui est en train de changer. Donc c'est vraiment de l'observation en fait, c'est vraiment de l'observation pure.
Mais pourtant, faut dire ce qui est, et là je m'adresse à tous les deux, on est encore beaucoup dans le cliché quand on décrit les vieux, ou appelons ça comme on veut, les seniors, etc.
Les vieux,
c'est quand on décrit les vieux, aussi bien d'ailleurs dans les médias que dans la pub, il y a quand même une représentation qui est à l'exception notable de cette campagne, généralement assez caricaturale quand même, non ?
Oui, mais en fait, j'ai l'impression qu'on fait le pont avec ce qui se disait tout à l'heure, quand on parlait des clichés dans la publicité et d'une meilleure représentation, etc. Je pense pas que ce soit nécessairement une faute du côté des agences, entre guillemets.
Ah non, c'est pas la question.
Non, mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que on aurait plutôt tendance du côté des agences à vouloir avoir une représentation un peu plus moderne, mais il y a aussi du côté annonceur où, en fait, il faut que ce changement soit opéré et il faut que tous les deux, on soit, en fait, synchro, entre guillemets, pour y arriver. Et ce qui fait qu'en fait, je pense qu'on a forcément un petit peu plus de retard, entre guillemets, pour pouvoir illustrer ce que représente réellement la société d'aujourd'hui.
Il y a eu trois moments, il y a eu plusieurs moments. Pendant très très longtemps, tout simplement, les vieux n'existaient pas.
Oui,
c'est tout simplement ça. On n'en parle pas, de toute façon, ils ne sont pas là. Plus deuxième élément, c'était le grand discours pub ou média, c'est la ménagère de moins de 50 ans. Je me souviens une fois devant un cercle comme ça de publicitaires, j'ai dit, mais vous savez qu'il y a des femmes de plus de 50 ans qui mangent, qui désirent, qui baissent, qui ainsi de suite, et donc elles consomment. Parce que c'était un truc comme si elles étaient mortes, quoi. Donc du coup, on ne les voyait pas. Et puis troisième élément, quand on les voyait, en effet, on a en tête, je sais pas, moi, Mamie Nova ou des choses comme ça, des choses extrêmement violentes sur lesquelles d'ailleurs les gens ne se reconnaissent pas. Et l'autre élément qui est super compliqué dans le métier, c'est que souvent, quand on dit t'es jeune, tout le monde est content d'être entendu d'être jeune. Quand on dit t'es vieux, t'es qui tu
vois?
Donc les gens ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont vieux, ne veulent pas qu'on leur parle comme ça. Vous inventez, vous savez, il y a eu comme ça des projets de chaînes de télévision qui disaient il faut faire une chaîne pour seniors. Si vous dites une chaîne pour seniors, les gens vont pas y aller. Ils veulent pas une voiture pour seniors, ils veulent pas une voiture pour vieux, ils veulent pas être mis là-dedans. Donc c'est et puis les marques qui étaient toujours dans il faut rajeunir la marque. Même quand il y a plus de 20 millions de personnes depuis 50 ans, plus 17 millions de personnes qui sont à la retraite, on dit non mais il faut rajeunir la marque. 48% des achats, ils sont faits par des seniors. Y compris un tiers des achats de jouets sont faits par des seniors. Pas toujours pour jouer. Il arrive qu'ils les offrent à leurs petits-enfants quand même. Voilà. Mais n'empêche que, donc, ouais, mais on veut pas les voir. Donc, il y a eu tout ça. Et donc là, on voit qu'il y a des évolutions, mais tout simplement parce qu'il y a plein de gens qui disent, en fait, ils sont là et ils consomment. Et ils nous intéressent parce qu'ils sont nombreux. Et parce que, en plus, parfois, c'est ce qu'on disait dans le temps, des early adopteurs, ça peut être des gens de plus de 50 ans, voire de plus de 70 ans, qui sur certains objets, par exemple, sur le bio, par exemple, ça a été un des segments majeurs. Parce que les gens se disent, faut que je fasse attention à ma santé, on a trop pollué, ainsi de suite. Donc, ceux qui finalement sont souvent le plus en retard, ce sont en effet les annonceurs et parfois certains de vos confrères.
Merci beaucoup Serge Guérin, sociologue spécialisé dans la séniorisation. Stéphane Santana, co-directeur de la création de CLM BBDO. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CV News. On se retrouve la semaine prochaine pour un best-of d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.